风带薄雾，使我神魂未眠，解我作笑凡夫的门庭，只有春天。从前恋恋，未来恋恋，新一天有个老条件，谁永结伴在神气。En analysant l'histoire de la vie de six femmes chamanes, Yung-suk Kim Ha-wae a dessiné en fait le développement en spirale de leur maladie de possession en suivant au minimum les phases suivantes. D'abord, la victime ressent une opposition entre ses aspirations personnelles et son rôle de femme au foyer, ainsi qu'un fort conflit avec des membres importants de la famille tels que son mari, sa belle-mère et sa belle-sœur. Puis la victime tente de résoudre ses conflits, mais se sent dépassée et enfermée sans ressources dans ses problèmes. La victime tombe malade, les symptômes qu'elle présente sont peu clairs et on lui accorde en quelque sorte un congé. La maladie persiste et la famille diminue ou réduit à zéro ses exigences normales à l'égard de la victime de tous ses problèmes, tout en se mobilisant pour la tirer de sa maladie. Cela étant, la maladie guérit et reprend ses fonctions ordinaires. Rassurée par la guérison, la famille reprend son fonctionnement ordinaire. Le stress produit par le retour de vieux conflits redevient insupportable et la victime retombe malade. Ce processus d'oscillation peut se répéter plusieurs fois et toutes les informations qu'a réunies Kim Ha-wae démontrent que cela a toujours passé par ce processus-là jusqu'à ce que les rechutes de la victime et les efforts de sa famille pour l'en tirer, les mènent finalement, en quelque sorte, dans une impasse. À ce moment, le ou la chamane qui soigne pose le diagnostic de Sinbyong, c'est-à-dire maladie de la possession. Dans un des cas qu'a étudié Yung-suk Kim Ha-wae, le processus a duré pendant 28 ans et deux mariages, imaginez-vous. Alors, la personne qu'a étudié Kim Ha-wae s'appelle Nam San Man-sin et à l'âge de 17 ans, elle a dû se plier à un mariage arrangé par ses parents. Elle essaya à plusieurs reprises de saboter leur plan en s'enfuyant, mais on l'a repris à chaque fois. La dernière fois, on la retint prisonnière dans sa chambre jusqu'à la cérémonie. Elle ressentit si violemment la contrainte de ce mariage qu'elle en refusa la consommation pendant 4 mois. Et lorsque cela eut lieu, elle eut l'impression d'être violée par son mari. Elle n'avait pas consenti, il l'avait tout simplement prise de force. Lorsqu'il apparut qu'elle était enceinte, elle prit vaillamment sur elle d'accepter son rôle conjugal et même d'en exercer certaines tâches avec brio. Mais elle s'aperçut avec désespoir qu'elle ne pouvait simplement pas y mettre son cœur, comme on dirait chez nous. Et elle tomba malade à plusieurs reprises sous de vagues symptômes que personne ne pouvait identifier. Elle avait espéré que la naissance de son enfant puisse changer quelque chose, mais elle ne ressentit aucun attachement pour lui dès sa venue au monde. Il était le résultat d'un viol. C'est ce qu'elle ressentait. Deux autres enfants, deux filles, lui succédèrent dans des délais très rapprochés. La première mourut à la naissance, la seconde à l'âge de 2 ans. Nam San Man-sin resta choquée après l'ensevelissement de cette fillette parce qu'elle s'y était malgré tout attachée, au contraire de son fils. Peu après, elle se sentit à nouveau malade avec les mêmes symptômes qu'auparavant, mais beaucoup plus fort cette fois-ci. Ses beaux-parents firent appel à une chamane pour la soigner après que les traitements de l'herboriste chinois ou du médecin de la ville se furent révélés totalement inefficaces. La chamane déclara que Nam San Man-sin était affectée de la maladie de possession, confirmant ainsi les bruits qui circulaient depuis quelque temps parmi les vieilles femmes du village. Ses beaux-parents la supplièrent d'accepter l'appel pour mettre un terme à sa propre affliction et aux dépenses qui épuisaient la famille. Toutefois, la perspective de devenir chamane faisait tellement peur à Namsam Monsin qu'elle s'enfuit de la maison le soir même et se débrouilla pour subsister en exerçant de petits commerces dans une ville à quelques distances de là. Dans la même année, elle se mit en ménage, un statut un peu particulier, vous allez le voir, avec un réfugié de Corée du Nord qui avait un jeune fils. Elle était très amoureuse de cet homme et elle voulait légaliser leur union, surtout après la naissance de leur première fille. Quoi qu'il en soit, son mari, qui ne l'était pas, était déjà marié, mais sa femme légitime était demeurée en Corée du Nord pour s'occuper de vieux parents, tandis que lui s'enfuyait au sud avec leur fils pendant la guerre de Corée. Bien que Namsan Monsin comprît les réticences de son mari, elle ne pouvait pour sa part accepter de n'être qu'une concubine, même légalement reconnue, et la mère d'un bâtard. Elle était déterminée à se marier. Sachant que son concubin ne faisait que rêver d'affaires sur une grande échelle, mais manquait d'argent pour réaliser quoi que ce soit, elle garantit son premier gros projet en investissant adroitement ses économies dans plusieurs sociétés de secours mutuels. Alors, le mariage légal eut lieu peu après. À quoi cela tient ? Cependant, dès que les affaires prirent bonne tournure et produisirent un revenu suffisant pour qu'elle puisse lâcher son propre travail et se transformer en une épouse et mère idéale selon les canons coréens, son mari se trouva entraîné dans une série de relations extra-conjugales délirantes qui finirent par les ruiner. En même temps, Namsan Monsin tomba malade en présentant exactement les mêmes symptômes que lors du premier diagnostic de maladie de possession. Elle consulta une chamane à nouveau qui lui déclara que sa destinée était réellement de devenir elle-même chamane. Mais elle se remit de sa maladie lorsque la ruine de son mari fut totale et que sa famille fut sur le point de mourir de faim. Elle-même était habile en affaires, on l'avait déjà vu, et fut bientôt capable de financer à nouveau les entreprises de son mari. Ce schéma se répéta plusieurs fois tant que dura leur mariage, jusqu'au jour où les relations féminines incohérentes et extravagantes pour le moins de son mari les eurent réduits à une détresse financière telle que Namsan Monsin se trouva acculée à abandonner leur quatrième enfant. Elle laissa sa petite fille d'un mois devant le portail d'une maison à l'air cossu qu'elle avait repérée quelques semaines auparavant parce qu'elle craignait déjà d'avoir à agir de la sorte. Elle sentait qu'elle ne pouvait assumer ce bébé tout en s'occupant en même temps des autres enfants. Après quoi, elle fit une nouvelle rechute. Mais elle ne fut plus capable, comme les autres fois, de se remettre sur pied et de voler au secours de son mari et de ses enfants. Au contraire, elle restait là à regarder dans le vide et à avoir des hallucinations intermittentes, négligeant complètement les besoins des siens. Et cela dura 6 mois. Son mari fit appel à toutes les ressources, à tous les systèmes qui avaient été efficaces dans le passé pour la décider à se remettre à l'ouvrage. Ce fut l'échec complet. Dans son désespoir, il consulta une chamane qui posa, comme les précédentes, le diagnostic de maladie de possession. Lorsqu'ils eurent vendu tout ce qu'ils possédaient, Namsan Monsin fit d'elle-même la proposition de se faire chamane, disant que, ma foi, c'était son destin et que tous ses malheurs et ceux de sa famille n'avaient eu d'autre objet que de briser sa volonté et de lui faire accepter cette vocation qu'elle refusait jusque-là. Son mari fut d'accord, d'autant plus que les esprits qui prenaient possession d'elle furent identifiés comme ceux de ses ancêtres à lui. Lorsque Kim Ha-wi, donc la chercheuse, vit Namsan Monsin pour la dernière fois, en 1973, elle avait développé en moins de 2 ans, une fois sa décision prise, une pratique relativement prospère à Séoul et elle parvenait à nourrir ses enfants et son chômeur chronique de mari. De ce côté, celui-ci acceptait sans réticence de dépendre de sa femme comme si c'était l'inévitable malédiction qui frappait tous les maris de chamanes. Il continuait à parler de se lancer dans les affaires et espérait que sa femme lui donnerait une dernière chance en garantissant ses arrières. Elle ne lui donnait pourtant que de petites sommes, ne lui accordant quotidiennement que l'argent nécessaire à la journée, qu'il passait à perdre son temps avec ses semblables.
Sous 常常期望我是儿童，人人维护快乐融融。从前日子，今天已渐渐迷蒙。只需世间有一个爱心，是我也共得娇宠。伸开两手，我急需抱拥，把爱意暖心中。
La manière dont les choses se développent après que le diagnostic de maladie de possession a été posé est tout aussi significative que ce qui s'est passé auparavant. En général, des changements radicaux interviennent dans les relations conflictuelles que la victime entretenait jusqu'alors avec sa famille et se manifestent de façon totalement différente ou de différentes façons. Premièrement, par exemple, l'antagonisme qui opposait la belle-fille et la famille de son mari, en général, s'apaisent. La famille laisse tomber ou fait taire les soupçons qu'elle entretenait sur la réalité de la maladie de la victime, accusée de mentir pour échapper aux devoirs de son état. Aux yeux de cette dernière, bien sûr, la famille doit également être déchargée de toute responsabilité par rapport à la maladie. Elle a assumé l'accusation que cela impliquait et consenti à y remédier, en dépit des souffrances imposées à ses membres. Deuxièmement, du moment que le sujet, aussi bien que sa famille, apparaissait désormais comme les victimes associées d'un phénomène surnaturel qui échappe à leur contrôle, une sorte de nouveau lien de solidarité s'établit entre eux. Le dit lien leur ouvre la possibilité d'une entente nouvelle pour réagir au diagnostic de maladie de possession et au rôle de chaman endossé par la femme qui en est victime. C'est en tout cas ce qui s'est passé avec 5 des 6 personnes qu'a étudié Kim Harvey. Et la sixième, eh bien, elle est venue chercher du secours dans sa famille maternelle. Les épisodes de réconciliation peuvent être dramatiques parfois. Dans l'un des cas, une belle-fille devenue chamane avait d'abord été éjectée de la maison de sa belle-mère. Mais les sarcasmes et les coups que ses enfants avaient à endurer en tant qu'enfants de chamane de la part des enfants du voisinage, finalement provoquèrent la réconciliation. Un jour, la belle-mère tomba sur une de ses petites filles qui pleurait toutes les larmes de son corps parce que ses camarades de jeu l'insultaient en injuriant sa chamane de mère. La grand-mère en fut tellement fâchée qu'elle attrapa un morceau de bois de feu et chassa tous les enfants en criant des injures contre leurs parents et en mettant tout le voisinage au défi de se montrer et de lui faire face. À la fin, elle prit sa petite fille en pleurs par la main et alla chez sa belle-fille faire la paix pour le bien des enfants. Il y a parfois une troisième situation. C'est lorsque le diagnostic transmue la souffrance de la maladie de possession avec un effet rétroactif en une expérience de vie intelligible, dit Kim Harvey, et pleine de signification. C'est-à-dire que la victime et sa famille peuvent voir désormais que leur affliction, leur problème avait un but. Pour une autre chamane, le diagnostic officialisé rendit à la famille entière, par exemple, capable de supporter l'idée d'avoir été obligée de survivre à l'hiver précédent en mendiant dans les rues. Donc vous voyez qu'il y a toujours quelque chose d'extrêmement concret dans la vie de la famille qui est lié à l'apparition des symptômes de maladie de possession. Alors il est donc clair qu'une fois que le diagnostic de maladie de possession est reconnu, les vieux schémas qui régissent les relations familiales ne peuvent plus du tout être mis en vigueur. On pourrait dire qu'en fait la maladie de possession correspond en quelque sorte à un kidnapping de la femme victime par les esprits qui l'enlève à son rôle ordinaire, lourd de conflits, dans le ménage dans lequel elle devrait normalement agir. Les esprits entament alors en position de supériorité un marchandage à propos de la rançon qu'ils exigent, laquelle consiste à obtenir de leur nouvelle recrue chamane qui leur sert de médium et en plus que sa famille la soutienne dans son nouveau rôle. L'interview d'une autre femme chamane réalisée par Young-suk Kim Ha-wei illustre parfaitement les changements qui se produisent dans les relations familiales après que le diagnostic de maladie de possession ait été admis et le rôle de chamane assumé. Dès qu'elle eut accepté publiquement la vocation chamanique en recevant ses clients, Une femme en question eut d'emblée entre 30 et 40 visiteurs par jour. Elle se mettait à l'ouvrage dès l'aube et travaillait pratiquement sans arrêt jusque vers 9h du soir. Son mari était dans l'obligation de prendre en charge la plupart de ses tâches ménagères et de s'occuper des enfants. Il préparait les repas avec ses filles, il appelait sa femme au moment voulu pour nourrir le bébé. La belle-mère, perturbée au plus haut point par la vision de son fils accomplissant un travail de femme, s'en vint chez eux pour le soulager le plus possible de sa corvée. Aujourd'hui, c'est la femme chamane qui non seulement supervise l'accomplissement général des tâches ménagères dévolues à la plus âgée de ses petites filles, mais elle a pris en outre la pleine responsabilité de toutes les servantes engagées pour préparer les mets rituels nécessaires aux activités chamaniques de sa belle-fille. De telle sorte que les rôles ont été totalement renversés, non seulement entre la chamane et son mari, mais aussi entre elle et sa belle-mère. Bien sûr qu'un tel renversement des pouvoirs est chose ordinaire dans les familles de chamans, où la victime du début finit souvent par être de facto le chef de famille. Et en tant que chamane, elle est en position de force vis-à-vis de sa famille par ses capacités de gagner de l'argent, d'abord, mais aussi par sa supériorité spirituelle, sa santé recouvrée et sa nouvelle confiance en elle. Le changement des structures d'autorité dans la famille est d'autant plus prononcé que, comme il en va habituellement et comme ce fut le cas pour 5 des 6 personnes informatrices observées par Kim Ha-wei, eh bien, les biens familiaux ont été profondément entamés par le processus d'apparition de la maladie de possession. Mais les membres de la famille, enfermés dans leur statut de hors-caste, vont peu à peu devenir entièrement dépendants de la chamane sur le plan financier. Alors, il semble absolument important d'analyser le phénomène de maladie de possession comme la représentation symptomatique d'un conflit très important véhiculé tant par l'image que la femme victime a d'elle-même que par les relations lourdes de problèmes avec sa famille. Et lorsque la maladie de possession aboutit enfin à son acceptation du rôle de chamane, tout le monde sort de l'impasse. L'unité familiale peut ainsi être sauvegardée par une redéfinition des rôles de chacun, même si c'est tout à fait à l'envers de l'habitude. Mais cette solution engendre aussi d'autres problèmes. Par exemple, les membres de la famille sont en fait des sortes d'otages permanents, ligotés par la crainte de représailles surnaturelles, mais aussi par l'humiliation d'appartenir à la situation des hors-castes. La chamane voit d'autre part retomber sur elle le poids des sacrifices personnels et sociaux que sa famille a dû accepter, et bien plus, elle endure la frustration de ne pas pouvoir se servir de son propre pouvoir pour les ramener à un niveau social correct. La C'était notre cinquième émission sur le thème « La religion par les femmes », information que j'ai trouvée dans un livre fort intéressant dont les diverses contributions ont été réunies par Nancy Auerfolk et Rita McGross, « La religion par les femmes » publié aux éditions Labor et Fides. Aujourd'hui, un chapitre qui avait pour titre « Des rébellions ritualisées » et en l'occurrence le cas des femmes chamanes en Corée, femmes chamanes qui sont victimes de maladies de possession. Le chapitre sur les femmes chamanes en Corée a été écrit après une étude faite par Young-suk Kim Ha-wei, né en Corée mais qui habitait aux États-Unis. Voilà pour aujourd'hui, c'est la fin de notre chapitre, c'est aussi la fin de notre émission. Je vous propose encore une musique, un tout autre chapitre que nous aimons beaucoup et peut-être que vous aurez l'occasion de les redécouvrir une fois en direct parce que vraiment il faut les avoir sous vos yeux. Ce sont les reines prochaines qui viennent de Bâle.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
Komm mit mir, aufs bloß, ich will dich bloß.
Komm mit mir aufs bloß.
Tanz mit mir im Rund, fall hinein, fall in meinen Schlund.
Mach's dir bunt, ich leck dich bunt.
Ich lecke dich bunt. Ich mach's dir bunt.
So, ich lieb dich so. So, ich lieb dich so.
Les reines prochaines, des adorables baloises qu'il vous faut absolument voir en direct, mais je ne résiste pas, oups là, à vous proposer une nouvelle chanson parce qu'elles sont tellement fantastiques que ça vaut la peine que vous en ayez encore une. Pourquoi ça ne marche plus? Je ne sais pas. Voilà, oui, ça vient. Je vous annonce peut-être le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, eh bien, c'est un entretien un peu particulier que j'ai eu avec la danseuse genevoise, enfin qui vit à Genève, d'origine argentine, Noémie Lapsaison. On a eu souvent l'occasion d'avoir à notre antenne Noémie Lapsaison lors de ses divers spectacles. Mais au printemps passé, elle a fait une grande tournée, ce qu'elle n'avait pas fait depuis très très longtemps dans sa carrière, en tout cas pas depuis qu'elle était en Suisse, c'est-à-dire 1981. Et pour elle, c'était une sorte d'accomplissement de pouvoir une fois prendre un de ses spectacles et l'emmener au travers de plein de villes de Suisse romande, et y compris Berne, donc contact avec le public suisse-allemand. Et j'ai eu envie de la suivre un petit peu d'étape en étape dans sa tournée, non pas parler uniquement du spectacle lui-même, mais comment, quel type de nouvelles donne cela fait-il de se trouver dans des lieux différents, avec un spectacle qui doit s'adapter à ces lieux différents, et puis des gens qui vous accueillent, qui réagissent de façon différente. Alors voilà, c'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine, et peut-être ce sera l'occasion pour vous d'aller voir en vrai le spectacle, si vous ne l'avez pas vu lorsqu'il passait soit à Genève, soit à Lausanne, soit dans les autres villes de Suisse romande, soit à Berne, puisqu'il va être remontré, donc devoir se réadapter à une nouvelle scène à Paris, au Centre culturel suisse, au début du mois de juin. Voilà. Alors, à la semaine prochaine, et pour quelques instants encore, les reines prochaines.
Meine Schuhe sind weiß, meine Füße sind blind, doch mein Herz ist schwach, so schwach, so schwach heute.
Confiance. ganz schlimm.
Will ich fliegen, stört mich ja. Bleibe ich liegen, mache ich Schlaf. Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade, crie le mal, crie le mal.